Le timbre du coin.
L'émission prête à poster.
On y poste presque tout.
Mais jamais rien.
Salut les timbrés, aujourd'hui dans le timbre du coin sur Timbre FM sur le 106.6, eh bien j'ai la joie et l'honneur de recevoir Monsieur Mathieu Bostin, qui fait partie du Champ Commun. Donc le Champ Commun, c'est une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif située à Augan. Vous en entendez beaucoup parler quand vous écoutez Timbre FM, puisqu'il y a un lien assez fort entre les deux structures. Et aujourd'hui, bien, Mathieu est avec nous dans le studio de Timbre FM. Bonjour Mathieu.
Salut Loïc, salut les timbrés.
Ça va bien ?
Ça va bien, carrément.
Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on a décidé de faire un petit focus sur le Champ Commun. Hein. C'est vrai qu'on le fait assez rarement finalement, alors qu'on se voit tous les jours. Et donc c'est important de parler des structures partenaires de Timbre FM et puis surtout des structures qui permettent de développer beaucoup de choses sur le territoire et sur notre territoire, donc celui d'Augan hein, principalement, mais qui a tendance à rayonner d'une certaine manière puisque le Champ Commun, entre autres, on va en parler hein, de toutes les activités que propose le Champ Commun, mais propose justement ce qu'on appelle de l'essaimage. Donc c'est vrai que le Champ Commun existe depuis 2009.
Tout à fait.
Et donc il y a une certaine maîtrise, une certaine expertise dans plein de domaines qui s'est développé au fur et à mesure, et l'essaimage, c'est un peu le fait de, bah, comme son nom l'indique, de planter des graines un petit peu partout et d'aider les porteurs de projets en fait qui veulent monter des projets plus ou moins similaires à celui du Champ Commun. Donc voilà hein, pour une petite présentation, mais je pense que tu vas pouvoir continuer à nous développer ça. Qu'est-ce que c'est le Champ Commun?
D'abord, merci à Timbre FM de nous inviter pour venir présenter encore une fois. Et puis, en même temps, le Champ Commun, c'est comme la vie, quoi. Ça change au fur et à mesure des années qui passent. Et le Champ Commun, c'est donc, comme tu l'as très bien dit dans l'introduction, une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif. Ouais. C'est une entreprise. Une entreprise coopérative dans le sens où elle est constituée d'un capital social, elle appartient à des habitants du territoire. Aujourd'hui, on est 190 associés, donc c'est une entreprise qui a de nombreux sociétaires citoyens, puisque c'est une société commerciale coopérative et qui a la particularité en tant que SIC de devoir servir un intérêt collectif et d'avoir une utilité sociale. Donc c'est en ça que c'est une entreprise particulière, parce que vraiment pour le reste, elle fonctionne de manière assez classique, puisque elle vend des produits et des services, elle travaille avec des fournisseurs, et puis elle paye ses impôts, elle paye la TVA, comme toute entreprise classique, quoi.
C'est ça.
Donc là où elle est moins classique, c'est qu'effectivement, elle défend un intérêt collectif. Cet intérêt collectif, c'est celui que définissent ensemble l'ensemble de ses associés. Voilà. Ouais. Et pourquoi un intérêt collectif défini par les associés? Puisque la plupart des associés sont aussi porteurs d'un intérêt particulier. Alors dans les grandes lignes, on appelle ça des catégories d'associés, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, on va avoir les salariés qui sont associés au capital et donc qui ont la voix aussi à la décision sur la manière d'apprécier ce qui est fait dans la coopérative, où va le résultat s'il y en a de la coopérative, où vont les investissements, donc de participer à la stratégie au même titre que tous les autres associés. Mais en tant que salarié, eux, ce qui compte aussi, c'est de gagner correctement leur vie et puis d'avoir un travail dans de bonnes conditions. À côté de ça, les fournisseurs qui sont associés, puisqu'on en a, on a beaucoup de producteurs locaux, on a aussi d'autres entreprises, dont des scopes, qui ont envie, quand ils mettent leurs produits dans une entreprise, qu'on leur achète leurs produits déjà en priorité, qu'on fasse la promotion de leurs produits, que la coopérative soit aussi un lieu où on parle d'eux, de leur travail, de ce qu'ils font, de comment ils produisent aujourd'hui de l'alimentation pour la plupart des fournisseurs. Mais il peut y avoir également des associations qui soient associées. C'est le cas, par exemple, Timbre FM.
Timbre FM avec l'association Aprala, qui fait partie des associés.
Qui fait partie des associés et qui peut trouver au sein de cette coopérative aussi un espace pour organiser, par exemple, leur formation, pour venir y faire des émissions, sachant que l'intérêt collectif, il est là. C'est qu'à un moment donné, quand on a tous ces acteurs qui mettent de l'avant l'ensemble de leur intérêt particulier, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous rassemble. Est-ce qui nous rassemble autour de cet intérêt collectif? C'est de maintenir le commerce de proximité en milieu rural. C'est la raison première du Champ Commun.
Ouais, c'est la base, quoi.
C'est la base. Mmh. C'est vraiment ce qui fait qu'il y a de l'énergie humaine. j'ai envie de dire, assez importante, hein, puisqu'on a 185 associés aujourd'hui, mais on a une grosse quarantaine de personnes qui sont acteurs très régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, sur le lieu, salariés mais pas que, qui font vivre le lieu avec cette ambition de dire ben, pourquoi on maintient un commerce de proximité, parce qu'on veut maintenir des services de proximité. Bien sûr, l'idée qu'on puisse venir faire ses courses, même si on est en perte d'autonomie. On a pensé par exemple aux personnes âgées qui pouvaient continuer à rester autonomes chez eux, avec l'âge venant, avec leur petit chariot, venir continuer à faire eux-mêmes leurs courses, choisir leurs produits, etc. Mais aussi réussir à proposer un lieu culturel où on peut venir écouter un concert, on peut venir aussi boire un coup tout simplement. Enfin, le bar, par exemple, quand on a monté le projet, pourquoi on veut absolument maintenir un bar dans une commune ? Ben parce qu'il nous faut un parlement du peuple, c'est-à-dire un endroit où, où on fait politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'on discute,
on échange,
voilà. Il y en a qui font ça autour d'un rond-point aujourd'hui, on peut le faire autour d'une bière dans un bistrot tous les jours. Et c'est l'ambition de ce lieu-là, maintenir ce commerce de proximité, c'est ça sa finalité. Avec quand même des axes assez forts qui sont ceux de travailler sur l'idée d'une économie locale. Donc on travaille avec les producteurs du coin, nos fournisseurs principaux sont quand même beaucoup des producteurs du coin. L'idée, c'est qu'on arrive à participer, à faire vivre l'autre comme il nous fait vivre. Et cette idée d'économie locale, elle est fondée sur cette réciprocité. On part de la richesse produite sur un territoire et on fait en sorte que tous ceux qui participent à la créer puissent la partager de manière équitable et, j'ai envie de dire, égalitaire. Mais ça, c'est encore une nuance qui nous reste à travailler. Voilà, le champ commun, il est aussi sur l'idée d'offrir ce service à la population, d'être un lieu pour créer des emplois.
Ouais. Aujourd'hui, il y a combien de salariés justement au champ commun ?
Aujourd'hui même, on est 10 salariés au champ commun, donc on fait partie des PME, des PME du Morbihan. On n'a pas à rougir. On a réussi depuis maintenant presque 10 ans, 9 ans, comme tu le rappelais tout à l'heure, à créer quand même ces 10 emplois et plus d'autres emplois indirects qui sont créés par la dynamique culturelle, entre autres avec l'association L'Air de Rien qui est partenaire. Donc voilà, cette émulation, elle est créatrice de richesse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est créatrice de richesse pour beaucoup de gens, pas seulement pour une poignée.
Alors justement, si, vu que tu abordes ça, c'est quoi la grosse différence justement entre une SIC comme le champ commun et une entreprise où justement on sait que les dividendes sont plutôt reversés aux actionnaires et compagnie? Là, comment ça fonctionne, sachant que les associés mettent de l'argent sur la table, donc participent au pot commun, on va dire, du champ commun. Et donc, c'est quoi la particularité?
La particularité, c'est un peu la réponse dans la question, quoi. C'est que justement, c'est des citoyens qui mettent au pot commun, au capital social de l'entreprise. Ils le font avec une volonté qui est d'investir de leur argent. Ça peut être 100 euros, puisque c'est le prix d'une part, mais il y a certains qui ont mis 1000 euros, 300 euros, il y en a qui ont même mis 10 000 euros pour rendre possible, puisqu'on est 185, mais on a 170 000 euros de capital. Donc ce fameux pot commun dont tu parles, qui nous ont permis d'investir dans les différents projets dont on va parler après. Et en fait, la grosse différence, c'est que la rentabilité qui est recherchée dans une SIC, c'est avant tout une rentabilité sociale et culturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas la rentabilité financière comme le font classiquement les autres entreprises commerciales, qui sont celles d'enrichir ceux qui ont investi de l'argent dans la création de l'outil, en fait, quoi. Là, c'est vraiment très secondaire. Ça peut être le cas, hein. L'Assemblée Générale peut décider de distribuer des dividendes, c'est-à-dire les années où il y a du résultat. Ça n'a jamais été le cas depuis ces 9 premières années. Mais on doit obligatoirement, en tant que SIC, par contre, mettre au moins la moitié du résultat en réserve statutaire et réglementaire, c'est-à-dire impartageable. Ça doit revenir directement dans la trésorerie de l'entreprise pour consolider en permanence l'entreprise, avoir une capacité d'investissement, mais aussi avoir une capacité à faire face aux années moins bonnes. C'est une des grosses spécificités, et d'ailleurs l'année 2008, qui était l'année de la crise en France et ailleurs dans le monde, a permis de prouver une fois de plus que la dynamique coopérative résistait plus à la logique du marché que les autres. C'est-à-dire que comme elles avaient mis en réserve et non pas distribué à leurs actionnaires le fruit du travail des salariés, je le dis en passant quand même, elles ont pu traverser la crise de manière beaucoup moins douloureuse que les autres entreprises classiques, puisqu'elles avaient le capital pour faire face, quoi.
Et l'autre particularité, c'est aussi que sur les 185 associés, chaque associé compte comme une voix.
C'est ça, tout
c'est
à fait.
C'est aussi la différence avec certaines entreprises où c'est en fonction de ce qu'on a mis sur la table qu'on a plus de poids ou pas, quoi.
Tout à fait. Et peu importe le capital, une personne égale une voix, ouais.
Donc c'est important de le redire.
Ah mais c'est même, comme tu le dis, je dirais que c'est la partie la plus radicale en fait.
Ouais.
Au final, c'est que tu mettes 100 euros ou 10 000 euros, tu as une voix au chapitre. Quel est l'endroit aujourd'hui dans toutes les institutions françaises qui existent où c'est comme ça que ça se passe ?
Bah, Timbre FM.
Voilà, parce que Timbre FM est une association où c'est un adhérent, une voix. Mais Timbre FM fait partie de ces structures de l'économie sociale et solidaire qui fonctionnent sur une logique entièrement désintéressée et dans une logique a priori non marchande.
C'est ça. Alors que le champ commun a une logique quand même marchande, puisque c'est quand même la base de son activité.
Bah oui, justement, j'en profite.
Ouais.
Ah bah vas-y, pose ta question.
Non, vas-y, profite.
Non, je profitais parce que je pense que ça fait partie un petit peu des difficultés ou des quiproquos ou des incompréhensions qu'il peut y avoir par rapport à un projet comme le Champ commun. Donc le Champ commun n'est pas une association, le Champ commun est une société coopérative d'intérêt collectif dont le statut commercial est la société par action simplifiée, une SAS. C'est-à-dire vraiment une entreprise libérale très classique. Sauf que cette entreprise libérale, elle est définie en se référant à la loi 47, qui est le droit de coopération en France et qui vient amener ces éléments qui sont d'une radicalité importante et qui ont été définis, entre autres, par le Conseil de la Résistance comme un moyen pour les salariés et les citoyens de devenir maîtres, de garder la main sur leur entreprise collectivement. Et c'est pour ça qu'on vient court-circuiter le rapport au capital. On a besoin de ce capital pour investir, mais ce n'est pas lui qui va décider des orientations en fonction de celui qui a déjà réussi à en cumuler.
Alors, on a parlé de certaines activités du champ commun, mais si tu peux faire une liste exhaustive de toutes les activités proposées par le champ commun, sachant qu'il y a 10 salariés, donc comment se répartissent les salariés, sur quel poste et pour quelle activité ?
Bah, j'ai envie de dire, le point de départ du champ commun, c'est un point de départ qu'on a imaginé comme étant assez classique au sens traditionnel. Les commerces dont ont besoin tous les habitants de n'importe quelle commune de France ou de Navarre, c'est une épicerie et un bar. Donc là, nous, on a fait simple, en fait. On a observé l'histoire, on a observé nos communes rurales, on a observé nos quartiers populaires, on a réfléchi à nos besoins personnels et c'est là-dessus qu'on revenait en permanence. Donc aujourd'hui, le champ commun, c'est une épicerie qui s'appelle le garde-manger et qui, sur à peu près 112 mètres carrés, propose un peu plus de 2500 références, ce qui permet de faire ses courses avec des produits frais. On travaille avec une soixantaine de producteurs locaux. On trouve des produits du quotidien. On peut venir faire ses courses au quotidien. On a également un bar café-concert qu'on appelle l'Estaminet, qui est un endroit où on peut venir boire un coup. Aujourd'hui, de plus en plus y manger, et bientôt, ça sera officiel, y manger tous les midis dans le courant de 2019, du mardi au vendredi.
Et également le soir, une
vraie restauration quotidienne quasiment, voilà, qui est un peu c'est un nouveau projet, je parlerai peut-être tout à l'heure. Donc sur l'épicerie, tu me demandais un petit peu la répartition des salariés, donc on a 4 salariés. Sur le bar, on a 3 salariés. On a également, pour alimenter le bar et l'épicerie, on a une brasserie, donc fait notre bière sur place essentiellement, donc avec un salarié qui est brasseur. On a également une activité qu'on a développée depuis août 2018, donc qui est toute fraîche, qui est un investissement qu'on a fait ça a été un projet qu'on a mis plus de 6 ans bientôt à réaliser, qui est cette fameuse auberge. On vient d'investir 450 000 euros. Ouais,
Ce
qui est pas rien, avec beaucoup de fonds citoyens, un peu de subventions aussi, significative au sens un quart du budget du projet. On a reçu un financement de la région et du département. Les citoyens associés ont mis des comptes courants, ont abondé au capital. On a eu une opération aussi de crowdfunding sur Ulule qui nous a permis d'aller chercher quand même 36 000 euros, donc c'est pas rien. Et puis après, on a fait appel aux prêts bancaires et on a un cofinancement NEF Crédit Agricole qui nous a permis d'aller chercher le reste nécessaire à boucler le budget. Un an de travaux, une réalisation faite avec des artisans du coin, quasiment à 100%, faite aussi avec les associés, puisque le champ commun a auto-construit une bonne partie sur l'isolation, avec le soutien d'associés experts, puis de maîtres d'œuvre aussi locaux, puisque c'était Gare Concept qui a bossé sur les plans et qui a suivi tout le chantier. Ça a été le moyen de construire aujourd'hui 7 chambres avec 25 lits pour accueillir groupes et familles, randonneurs, tout au long de l'année. Et également une grosse cuisine qui nous permet de sortir une centaine de plats bien équipés, vraiment on est super contents, qui est collée au bar. Donc ça permet aussi de consolider l'activité économique du bar. Ça permet d'envisager l'été d'offrir une restauration sur la terrasse avec les petits événements culturels qui vont aller avec. Voilà, on commence à avoir quelque chose d'assez c'est abouti après 9 ans. Et donc ça, c'est les deux dernières activités qui sont en train de se développer là, hébergement et restauration. Donc je viens à ce qui nous amène aussi à venir aujourd'hui. J'espère que en plus on vient faire le premier quart d'heure. Et je dirais qu'on ferait peut-être pas une petite pause musicale avant d'attaquer
la partie SMH. Mais justement l'SMH en une phrase pour résumer, parce que ça c'est quand même une activité importante du champ commun. Ouais. Pour résumer, avant d'écouter un petit morceau de ton choix qui pour toi représente assez bien le champ commun, c'est quoi l'essaimage ?
L'essaimage, c'est tout simplement l'idée de partager l'expérience du champ commun avec toutes les personnes qui ont envie de faire quelque chose qui se rapproche de ce qu'on a mis en œuvre depuis 9 ans ici à Augan.
Très bien. Eh bien, on revient juste après un morceau de Georges Brassens que tu as choisi, qui s'appelle bizarrement « Mourir pour des idées ». Voilà, on retrouve Mathieu Bostin et le chant commun tout de suite après.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent, d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire. C'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Voilà, vous êtes toujours sur Timbre FM, sur le 106.6 MHz, et on est toujours dans le studio avec Mathieu Bostin, qui fait partie du Chant Commun, qui est salarié au Chant Commun, et qui a choisi ce morceau de Georges Brassens, Mourir pour des idées, puisque des idées, il y en a au Chant Commun, et puis aussi ailleurs. C'est ce qu'on va voir dans cette partie, parce qu'on a abordé un petit peu toutes les activités que proposait le Chant Commun, à savoir, on l'a dit, l'épicerie, le café, café-concert, la brasserie, et puis ce qui est tout nouveau, c'est l'auberge, donc avec une idée de restauration derrière, et donc tout ça fonctionne avec une dizaine de salariés, dont tu fais partie, Mathieu, on l'a pas dit.
Ouais, tout à fait.
Et justement, quel est ton rôle, toi, en tant que salarié au sein du Chant Commun ?
Alors, mon rôle en tant que salarié du Chant Commun, c'est d'être sur une fonction, j'ai envie de dire, très administrative, dans le sens gestionnaire des enjeux liés à la comptabilité, la paye, la fiscalité, qui sont un peu un des piliers du fonctionnement d'une entreprise et puis de beaucoup de collectifs, en fait, au final. Donc c'est aujourd'hui une de mes fonctions principales que j'assume depuis peu avec Valérie, ma collègue qui est là dans le studio et qui nous écoute.
Bonjour Valérie.
Voilà, bonjour, on profite. Hein. Et puis ma deuxième casquette, c'est celle effectivement de participer à cet essaimage dont tu viens de rappeler tout à l'heure la fonction.
Donc ça, c'est encore une autre activité, ouais, du Chant Commun, l'essaimage. Donc tu l'as résumé en deux petites phrases, voilà, juste avant le morceau de Brassens. Donc si tu peux réaborder ça, sachant que tu es venu là pour ça aujourd'hui aussi, c'est pour présenter deux formations qui seront proposées à partir de cette année et qui sont pour l'une préqualifiante et pour l'autre carrément certifiante. Donc,
c'est ça.
Donc on va, tu vas pouvoir développer. Mais l'essaimage, si tu reviens dessus...
L'essaimage, en gros, en fait, ça s'organise autour de trois formes de partage. Mmh. Une première qui est effectivement un partage de l'expérience qui se fait sous forme de témoignage. Donc en fait, tous les troisièmes samedis du mois, on accueille toutes les personnes qui sont intéressées par le projet du Chant Commun à venir de 13h à 18h. Discuter avec nous. On a mis en place tout un petit format pour les accueillir, venir poser leurs questions sur notre projet.
Mieux comprendre. Sur rendez-vous, hein, généralement, quand même.
Alors, il faut appeler avant, ouais, parce qu'on aime bien qu'il y ait 10-12 personnes maximum pour vraiment avoir un groupe où on peut discuter. Donc, si on est trop nombreux, ça devient un peu plus compliqué. Ouais. Il faut vraiment créer les conditions de l'échange. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on a mis en place depuis l'année dernière et qui fonctionne super bien. C'est vraiment un bon format pour nous, pour témoigner de notre expérience et pour les personnes qui sont intéressées de venir faire une première découverte, poser leurs premières questions. De là découle ce qu'on fait maintenant depuis un peu plus de 4 ans, ce qu'on appelle l'accompagnement des porteurs de projets.
Ouais.
Donc là, on est sollicité par des collectifs, par des collectivités qui sont intéressés pour créer ou reprendre un commerce de proximité, une épicerie, un bar en particulier, voire d'autres choses.
Tu peux nous donner quelques exemples concrets justement de structures avec qui vous avez travaillé ?
Ben, on a travaillé entre autres avec la commune de Monteneuf,
ouais,
qui nous a demandé un accompagnement pour éventuellement voir dans quelle mesure c'était possible de reprendre l'activité du bar qui était arrêté depuis quelques années sous forme collective. Et donc on a bossé pendant presque un an avec un collectif d'habitants à essayer de mesurer ensemble l'implication que ça supposait et de convaincre la municipalité de faire préemption sur le bâtiment pour pouvoir reprendre l'activité du bar, mais sous une forme cette fois-ci collective, en lien avec une finalité qui n'était pas uniquement celle de vendre des boissons, mmh, et puis de permettre à quelqu'un de vivre tout seul, mais vraiment de participer à l'animation sociale et culturelle en fait du territoire. Donc ça a donné naissance à La Source, Saint-Martin, qui est aujourd'hui un café, qui est
un café associatif,
du territoire, qui est voisin de Haugan. On a travaillé aussi avec d'autres structures, je pense au Guy Bras, là, qui est du côté de Saint-Germain-sur-Il, pardon, de Guy Pavas, qui est pareil, un café. Enfin, pas un café, une épicerie-restaurant.
Ouais.
On a pas mal bossé avec eux. On a bossé aussi avec le café qui est, lui, qui est dans le côté du 35 aussi. Je suis en train de chercher tous les acteurs parce qu'on en fait tellement que des fois, mais le Bardac, pareil, qui est un bar associatif. Alors là, on n'est pas uniquement dans des accompagnements qui sont ceux de la création, mais qui sont aussi ceux de comment on maintient, on structure la dynamique collective dans un collectif. Parce qu'en fait, souvent, l'émulation a lieu à la création au début. Après, il faut réussir à institutionnaliser les choses, à pérenniser dans le temps. Et souvent, l'émulation du départ, qui est basée sur une surénergie, ça pétille dans tous les sens, tout le monde est à fond, on se pose pas forcément les questions de la suite, on vit le présent à donf de balle, et puis on fait du chantier, et puis on a encore de l'espace pour rêver. Quand les travaux sont terminés, que l'activité est en marche, l'espace pour rêver se réduit, on arrive dans des trucs un peu terre à terre, de la gestion, de la norme, de la réglementation. Et souvent, ça met un peu un coup dur, en fait, au collectif de rentrer dans cette partie-là.
Et c'est là que le champ commun peut intervenir pour justement donner un coup de main sur tout
ça. C'est ça, c'est aider à structurer ça, voilà, tout à fait. Et puis à se dire aussi quels sont les espaces qu'on se donne. Comment on travaille sur nos pratiques même, hein, parce que c'est pas tout d'avoir un espace qu'on dit démocratique, c'est comment on se prépare aussi à y aller, et puis à écouter et à parler. Et ça, en tant que tel, ça s'apprend, c'est une culture qui ne se décrète pas, mais qui se constitue au fur et à mesure des années qui passent.
Ouais.
Donc c'est ce genre de choses qu'on fait. Et le troisième volet, qui est en lien avec l'essaimage que je viens à présenter aujourd'hui, c'est la dimension formation à proprement parler. Donc là, à partir de 2019, même si on a déjà fait quelques formations avant ça, et en particulier une qui s'appelait la SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif, une entreprise associative, c'est comme ça qu'on l'a appelée, où là on forme carrément des personnes qui souvent sont des salariés en formation continue et qui sont au sein d'associations qui se posent la question de transformer en SIC par rapport à des possibilités de mieux organiser les intérêts de chacun et les partenariats en conséquence, de pouvoir aussi développer une activité marchande pour venir consolider entre autres la disparition des subventions, qui permet à des collectivités aussi de devenir partie prenante du capital, parce que c'est une spécificité dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est en fait dans la SIC, les collectivités peuvent prendre part au capital au même titre que les autres citoyens. Donc ça peut aussi permettre de créer des nouvelles formes de partenariat qui sont souvent d'ailleurs beaucoup plus saines que celles des subventions ou des associations sur-subventionnées en fonction des personnes présentes au conseil municipal ou à la communauté de communes du coin, quoi, ou à la députation, pour parler d'affaires récentes. Mais dans tous les cas, on est sur cette dimension formation et la dimension dont tu parlais tout à l'heure, la nouvelle option qui commence en 2019 et qu'on appelle le CréOps, et qui, elle, est plus en fait une formation au métier d'entrepreneur. Il y a aujourd'hui, dans l'idée du CréOps, ces certifications pour devenir entrepreneur de l'économie solidaire et du développement durable. Donc
ça rentre dans ce cadre, dans ce fameux cadre ESS, hein, donc l'économie sociale et solidaire, dont le champ commun est acteur, entre autres.
En tant que SIC et au regard de l'objet même de sa structure et de son fonctionnement. Et donc là, c'est une formation pour se dire, en fait, un des gros enjeux, elle vient d'où cette formation ? Elle vient de Kejal, qui est une autre SIC, qui est dans le pays de Dinan. Qui est créée et portée depuis quelques années par Sophie Bettencourt, qui est spécialisée dans la formation. Elle est ingénieure de certification pour carrément utiliser les termes liés à son métier. Donc elle met en place des certifications et elle est obligée de réfléchir aux compétences et aux tâches qui correspondent au métier.
D'accord.
Et en gros, quels sont les métiers dont a besoin aujourd'hui une structure de l'économie sociale et solidaire pour garantir sa pérennisation, sa subsistance, son bon fonctionnement au regard des enjeux de gestion, gestion comptable, gestion administrative, mais aussi au regard de l'animation des relations sociales, humaines, qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est ces compétences-là, dans une logique de désintéressement, d'entendre tous les cas particuliers, de tous les intérêts particuliers des parties prenantes, de réflexion sur comment réussir à trouver sa place quand on est salarié au sein de structures où la fonction d'employeur est un peu floue, parce qu'on monte quand même du doigt l'idée que la direction soit incarnée par une seule personne. On est sur des logiques de responsabilité collective. Et en fait, c'est comment on fait, sachant qu'il y a quand même énormément de structures de l'ESS qui fonctionnent. On en a parlé tout à l'heure, je parlais des coopératives, entre autres, qui avaient traversé, et je ne parlais pas des coopératives agricoles, je parlais plutôt des SCOP et des SIC.
Qui ont traversé
la crise de 2008. 2018 aussi, peut-être. Mais dans tous les cas, qui se retrouvent pour certaines, a bien fonctionné, entre autres les entreprises dites de l'économie sociale, mais pas mal d'entreprises sous forme associative ou coopérative sont aussi en difficulté face aux défis de toutes les exigences qui leur tombent dessus en tant que gestion d'entreprise, parce qu'en fait une association est une entreprise, et également sur, comme c'est des projets collectifs, comment on fait pour gérer tout ce collectif-là si on n'est pas dans une logique hiérarchique, si on n'est pas dans une approche tayloriste de l'organisation du travail. Et c'est là où ça devient difficile humainement, hyper important politiquement, mais difficile humainement, et qu'il faut se préparer. Et cette formation, elle propose de se préparer à ça.
C'est là où il faut se former, et donc c'est pour ça que vous avez mis en place, alors pas tout seul, parce que vous êtes aussi en lien avec, sur la Nester, le Filéo.
La CAE Filéo, tout à fait.
Et donc deux formations, donc c'est un peu en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une première formation qui relève de l'initiation, en fait, qui dure 63 heures, ce sera du 7 au 1er février, et ensuite il y aura donc la seconde qui, elle, est certifiante, cette formation, c'est celle du CREOPS, du 18 février au 19 juillet. Donc là, c'est sur du long terme.
Cinq mois à temps plein.
Voilà, donc c'est un vrai engagement aussi. Et donc, de toute façon, pour tout renseignement, vous pouvez contacter directement Henri Georges, qui est au champ commun, au 09 67 37 49 04, ou par mail à smage@lechampcommun.fr. Et puis sinon, via Nathalie, alors je ne sais pas comment on dit,
PALA,
de Filéo. Et donc là, c'est elle s'occupe de la coordination pédagogique à Filéo, et c'est au 06 89 55 17 12 ou par mail à npealat@filéogroup.coop. Voilà. Et donc c'est des formations, alors en deux phrases, qui est-ce que ça peut intéresser concrètement, et puis comment est-ce qu'on peut financer ce genre de formation? Et combien elle coûte?
Bah voilà, c'est ça, elle coûte un max. On n'a rien sans rien. Non, je déconne. Oui, elle a un coût, c'est certain. Alors déjà, dire à qui elle s'adresse, par rapport à la préqualification, tu l'as bien présenté, c'est vraiment une initiation à l'entrepreneuriat sur 63 heures. Ça coûte 680 €. C'est une formation qui peut s'inscrire dans le cadre de la formation continue pour les personnes qui sont salariées.
Oui, ouais.
Avant de venir sur le fait qu'il y ait aussi un financement région pour les demandeurs d'emploi, c'est rappeler que en fait, c'est vraiment un moyen pour les personnes qui s'interrogent sur ça veut dire quoi entreprendre, qui se disent ça veut dire quoi créer une activité, qui aimeraient bien éventuellement s'installer à leur compte, puis qui disent auto-entrepreneur, ils voient cette option-là, mais en fait, c'est vraiment une des options les moins intéressantes pour créer l'entreprise et puis avoir des conditions d'existence, parce que la force en fait, de cette formation, c'est de prendre toujours la condition d'existence du créateur d'entreprise comme étant au cœur et au fondement de la création en tant que telle, quoi. Donc de ne pas brader sa vie pour créer son entreprise, quoi. On n'est pas du tout, on n'est pas là dans les start-up nation, quoi. On est vraiment, créer une entreprise, ça prend du temps, il y a des enjeux économiques et financiers importants, ça peut trouver son ancrage par rapport à l'idée d'un développement local, donc de l'endroit où on habite, offrir un service, même si on le vend, on peut l'offrir, comment on peut faire pour le vendre et qu'il reste accessible au plus grand nombre. Créer une entreprise, c'est aussi créer une association. Les financements peuvent venir ailleurs que du marchand, elles peuvent venir aussi de la subvention. Il n'y a pas d'honte à aller chercher de la subvention publique pour pouvoir faire vivre en fait des services sur le territoire, contrairement à ce qu'on essaye de nous dire. C'est souvent d'ailleurs plus rentable au final que quand on doit payer soi-même. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, surtout ceux qui sont autour des ronds-points aujourd'hui. Donc voilà, cette formation préqualifiante, elle se veut vraiment un espace de découverte. Suite à ça, d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans beaucoup de formations préqualifiantes, les personnes peuvent continuer sur le CREOPS. Donc le CREOPS, là, on passe effectivement à une vitesse supérieure. On peut venir de la préqualif, mais on n'est pas obligé de faire la préqualif pour rentrer au CREOPS. Il faut quand même candidater. Donc là, il y a des places qui sont limitées et sur la base de candidature. Donc il y a l'entretien, on fait une petite motivation, on a l'aide de motivation. La préqualification, en fait, on a juste à s'inscrire. Il n'y a pas de sélection qui est faite.
Oui, parce que là, on est quand même sur à peu près 726 heures de formation. Donc,
c'est ça. Voilà. On sort avec un bac plus 2. On n'a pas besoin d'avoir un bac pour y aller, par contre. Donc, c'est ouvert à tous. Il faut savoir lire, compter et utiliser un tableur, c'est un plus. Mais c'est le point de départ qu'on demande. On n'a pas besoin de parler anglais. C'est pas une nécessité. On peut parler gallo, ça peut être pas mal, surtout si on est au niveau local. Breton, ça peut être sympathique. Non, on a surtout demandé aux gens de venir avec un projet. Ils ont envie de créer leur entreprise. Ils ont envie de savoir comment le faire au niveau du territoire, comment aller le présenter aux différents partenaires, qu'il s'agisse des élus, qu'il s'agisse des banques, qu'il s'agisse des responsables du développement économique du territoire, comme les chambres, par exemple, et qu'il s'agisse aussi d'aller rencontrer les citoyens, les habitants, pour essayer de comprendre quels sont leurs besoins et comment on peut leur proposer un service dans le cadre de notre projet, de mettre en avant et de s'inscrire dans les dynamiques existantes. Qu'il s'agisse de réfléchir à comment réussir à définir notre produit, son prix, sa marge, quels sont les enjeux de gestion qu'on va avoir, comment organiser après sa partie administrative pour ne pas être perdu dans les multiples paperasses. On prépare à ça aussi. On prépare aussi à la gestion courante avec une formation en comptabilité, en gestion commerciale. On prépare aussi à la question de la gouvernance, au choix de la structure juridique, aux enjeux liés au salariat. Donc vraiment là, c'est quelqu'un qui a envie de se lancer. Il arrive avec son projet et pendant 5 mois... on forme sur des compétences. Ça veut dire que l'ambition, ce n'est pas de sortir avec le projet qui va réussir. Le projet, c'est un support. On n'est pas là pour faire en sorte que le projet réussisse. On est là pour que les gens, en fait, ressortent en étant plus en confiance, en étant plus à l'aise parce que mieux en connaissance du système dans lequel ils doivent développer leur activité, ou ils veulent développer leur activité. Et au final, conforter ou pas leur option. Il y a certaines personnes qui, à la fin du CREOPS, disent « mon projet ne tiendra pas la route, je ne vais pas aller me casser les dents. Par contre, je sais où je vais m'en aller pour la suite. » Ça ne veut pas dire que si on abandonne son projet, on n'a rien après. Le CREOPS, il prépare à ça. Et on sort. Après, il y a quand même une soutenance. Il y a un mémoire d'une centaine de pages à écrire qui est très fortement accompagné. On écrit ça aussi pendant les temps de formation qui sont liés à ça, en auto-formation, on appelle ça, avec des intervenants qui sont que des professionnels en activité qui viennent partager leur expérience pour former. C'est vraiment une des bases. On appelle ça la méthode active aussi. Ça veut dire qu'on se retrouve à bosser ensemble sous forme de jeu, en s'appuyant toujours en fait, au maximum sur le réel pour révéler en fait, le savoir théorique comme étant une compétence. Comment on la met en application, en fait, cette connaissance initialement théorique, pour en faire quelque chose de chaud dans le cadre de son propre projet. Donc le CREOPS, c'est une exigence. En même temps, c'est fortement accompagné. Et depuis maintenant 8 ans que ça existe, parce que c'est pas la nouvelle mouture, le champ commun rejoint le CREOPS, rejoint la dynamique de Kejal, le fait en partenariat avec, comme tu disais tout à l'heure, Phileo, la CAE, là, qui est une coopérative d'activité et d'emploi sur la Nestère. Dans cette énergie-là, l'idée, c'est vraiment de dire comment on donne le moyen aux habitants d'un territoire de créer les entreprises pour garder la main sur l'économie locale et faire une économie au service des habitants.
Donc en gros, c'est ultra dense. C'est une formation qui dure 5 mois
à temps plein.
Et on a parlé du tarif de celle du CREOPS.
Alors celle du CREOPS, elle est beaucoup plus chère. Elle coûte plus de 5000 euros.
Voilà.
Pareil, elle peut être prise en charge par des fonds de formation dans le cadre de la formation continue. Mais c'est là où c'est un peu la dernière partie de ce que je vais annoncer.
Ouais.
Donc si vous avez des questions, si vous voulez savoir ce que ça veut dire entreprendre, venez à l'initiation à l'entrepreneuriat avec la Précalif. Si vous avez envie, vous avez un projet, vous voulez créer votre entreprise, vous vous posez des questions pour savoir comment le faire, vous voulez vous former au métier d'entrepreneur, embarqué dans le CREOPS, il y a 12 places. 12 places et il y a 12 places même qui sont financées pour les demandeurs d'emploi. Ça veut dire qu'il y a 12 places en pré-qualif, 12 places en CREOPS qui sont financées par la région Bretagne, car le champ commun fait partie des 8 centres de formation du CREOPS en Bretagne, 2 par département, un en milieu rural, un en milieu urbain. Qui a répondu à l'appel d'offres de la région sur le plan Bretagne Formation, le PBF, et qui a donc obtenu le marché public. Donc il y a 8 centres en Bretagne, deux par département, ce qui veut dire que si vous entendez au-delà de la capacité de diffusion de timbre FM l'information, vous pouvez également le voir dans les Côtes d'Armor, dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine. Ces 12 places, elles sont financées, donc il n'y a pas de coût pédagogique à la charge du stagiaire. Et si le demandeur d'emploi n'a plus de droits, il peut bénéficier d'une subvention de la région qui lui permette d'avoir des moyens de subsistance pendant le temps de sa formation. Et okay. Ça, c'est géré par le centre de formation à partir du moment où l'inscription est validée. Donc, allez voir votre conseiller. N'hésitez pas à lui dire « je veux m'inscrire à tel endroit ». Si vous avez encore des doutes sur l'idée de vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter sur les infos que tu as diffusées tout à l'heure et qui seront présents sur la page de Timbre FM, je n'en doute pas. Voilà, la page de l'émission, comme on dit normalement.
Le podcast.
Sur le podcast de l'émission.
Et puis, de toute façon, on retrouve toutes les informations sur le site du Champ Commun. Hein, donc, www.lechampcommun.fr. N'hésitez pas. Donc, et en tout cas, je voulais te remercier, Mathieu, d'être venu au micro nous représenter le Champ Commun. Et puis cette initiative de formation qui se dérouleront où d'ailleurs exactement ?
Ah bah, elles vont se dérouler à Augan, hein, c'est au Champ Commun, dans les locaux du Champ Commun que ça va se passer. Ouais.
Ok. Donc n'hésitez pas. Et puis il faut aussi savoir que c'est quelque chose qui va être reconduit sur plusieurs années. Donc,
sur 4 années, ouais.
Là, si vous loupez le coche pour ce coup-ci, puisque les inscriptions se bouclent à peu près
dans le fin de l'année. Fin décembre pour la pré-qualif, parce que ça commence début janvier. Enfin, ça débutera d'ailleurs début janvier chaque année pendant 4 ans, de 2019 à 2022.
D'accord.
Et après, pour le CREPS, ça commencerait plutôt en mi-février. Donc
si vous êtes intéressé, mais que vous loupez le coche ce coup-ci, ce sera possible de se réinscrire les années suivantes. Donc n'hésitez pas. Et un grand merci, Mathieu.
Merci à toi, Loïc.
Et puis,
merci à Timbre FM.
Bonne continuation au Champ Commun.
Ouais, tout pareil.
Allez, salut.
Longue vie à Timbre FM. Ciao.
Le timbre du coin.
L'émission prête à poster.
On y poste presque tout,
mais jamais rien.